l'histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 7. Aussi longtemps que l'herbe poussera et que couleront les rivières. Troisième partie. Dans son livre, The Disinherited, Dale Van Avery résume ce que le déplacement signifiait pour les Indiens. Dans la longue histoire des méfaits de l'homme, l'exil a tiré des cris d'angoisse à bien des peuples. Néanmoins, il n'a jamais eu d'effet plus terrible que sur les Indiens de l'Est américain. L'Indien était particulièrement réceptif à l'aspect sensoriel du moindre élément naturel de son environnement. Il vivait à l'air libre. Il connaissait tous les marais, toutes les clairières, toutes les collines, rochers, torrents, ruisseaux, comme seul un chasseur peut le faire. Il n'a jamais jugé le principe de la propriété privée de la terre plus raisonnable que celui de la propriété privée de l'air. Mais il aimait cette terre avec une émotion plus profonde que celle de n'importe quel propriétaire. Il se considérait lui-même comme lui appartenant, au même titre que les rochers, les arbres, les mammifères et les oiseaux. Sa patrie, c'était la terre sacrée, sanctifiée, comme dépositaire des restes de ses ancêtres et sanctuaire naturel de sa religion. Il pensait que les cascades et les crêtes, les nuages et les brumes, les vallons et les prairies étaient habités par des myriades d'esprits avec lesquels il communiquait quotidiennement. Il appartenait à cette contrée de forêts, de lacs et de ruisseaux battus par la pluie et à laquelle il était lié par les coutumes de ses aïeux et ses propres aspirations spirituelles. Mais il en fut expulsé vers les plaines rases et arides de l'Ouest lointain. Une région désolée, universellement connue alors sous le nom de « Grand désert américain ». Selon Van Avery, dans les années 1820, juste avant que Jackson accède à la présidence et après la guerre contre les Creeks, les Indiens du Sud et les Blancs s'étaient souvent installés à proximité les uns des autres et vivaient plutôt pacifiquement, dans un environnement naturel qui semblait suffire à subvenir aux besoins de tous. Ils commençaient à partager des problèmes communs. Une certaine familiarité se développait. Les Blancs étaient autorisés à visiter les communautés indiennes et les Indiens étaient souvent reçus chez les Blancs. Des individus vivant sur la frontière, tels Davy Crockett et Sam Houston, étaient issus de cet environnement et nombre d'entre eux, à l'inverse de Jackson, devinrent des amis fidèles des Indiens. Les pressions qui conduisirent au déplacement ne furent pas le fait, Van Avery insiste sur ce point, de ces Blancs pauvres de la frontière qui voisinaient avec les Indiens. Elles accompagnèrent en réalité l'industrialisation et le commerce, la croissance démographique, l'essor du chemin de fer et des villes, la hausse de la valeur de la terre et la cupidité des hommes d'affaires. Les leaders des partis politiques et les spéculateurs fonciers manipulaient l'agitation grandissante. La presse et la religion excitaient la frénésie. Cette frénésie devait entraîner la mort ou l'exil pour les Indiens, l'enrichissement pour les spéculateurs fonciers et un pouvoir accru pour les politiciens. Quant aux Blancs pauvres de la frontière, ils n'étaient qu'un pion, utilisé dans les premiers engagements violents et sacrifié ensuite. Les Cherokees avaient déjà volontairement migré vers l'ouest à trois reprises pour rejoindre les magnifiques régions boisées de l'Arkansas. Mais presque immédiatement, ils se trouvèrent là aussi cernés et envahis par les colons, les chasseurs et les trappeurs blancs. Ces Cherokees de l'ouest durent alors se déplacer encore plus à l'ouest, mais cette fois vers des terres arides, trop peu fertiles pour intéresser les Blancs. Le traité signé en 1828 entre ces populations indiennes et le gouvernement fédéral stipule qu'il s'agit d'un territoire permanent qui, les États-Unis le promettent solennellement, sera et restera le leur pour toujours. Un mensonge de plus, évidemment. La situation lamentable des Cherokees de l'Ouest fut bientôt connue des trois quarts des Cherokees restés sur leur terre, à l'Est, où ils subissaient la pression des Blancs qui souhaitaient leur départ. Cernés par 900 000 Blancs, les 17 000 Cherokees de Géorgie, du Tennessee et de l'Alabama décidèrent que la survie passait par une adaptation à la société des Blancs. Ils se firent fermiers, forgerons, charpentiers, maçons et même propriétaires. Un recensement de 1826 fait état de 22 000 têtes de bétail, 7 600 chevaux, 46 000 porcs, 726 métiers à tisser, 2 488 rouets, 172 chariots, 2 943 charrues, 10 scieries, 31 moulins à grains, 62 forges, 8 machines à filer le coton et 18 écoles. La langue Cherokee, profondément poétique, métaphorique, merveilleusement expressive et scandée par la danse, le spectacle et les rituels, reposait depuis toujours sur le mélange de l'oral et du gestuel. Sequoia, le chef des Cherokees, inventa une langue écrite que des milliers d'entre eux apprirent. Le tout jeune conseil législatif des Cherokees vota l'acquisition d'une presse d'imprimerie et le 21 février 1828 parut le premier exemplaire du Cherokee Phoenix, imprimé à la fois en anglais et en Cherokee. Les Cherokees n'avaient jamais eu, comme la plupart des tribus indiennes, de gouvernement institué. Selon Van Avery, le principe fondateur du gouvernement indien avait toujours été le rejet de tout gouvernement. La liberté de l'individu était considérée par pratiquement tous les Indiens au nord du Mexique comme un attribut infiniment plus précieux que les devoirs de l'individu à l'égard de sa communauté ou de sa nation. Cette attitude de type anarchiste induisait tous les comportements, à commencer par la plus petite unité sociale, la famille. Les parents indiens éprouvaient une réticence instinctive à discipliner les enfants. Toute expression de libre choix et de volonté de la part de ces derniers était reçue comme un signe positif du développement de leur personnalité. Les Cherokees commencèrent même à imiter la société esclavagiste qui les entourait. Ils finirent par posséder plus d'un millier d'esclaves. Ils ralliaient cette civilisation dont l'homme blanc parlait tant, fournissant ce que Van Avery qualifie de prodigieux efforts. Pour s'attacher la bienveillance des Américains, ils allèrent même jusqu'à accueillir les missionnaires et la religion chrétienne. Cependant, rien de tout cela ne put endiguer la convoitise que suscitait la terre sur laquelle ils vivaient. Le discours que Jackson adressa au Congrès en 1829 explicitait merveilleusement sa position. « J'annonce aux Indiens, qui habitent certaines régions de Géorgie et d'Alabama, que leur tentative d'établir un gouvernement indépendant ne saurait satisfaire l'exécutif américain. Aussi, je leur conseille d'émigrer de l'autre côté du Mississippi ou de se soumettre à la législation de leurs États. » Le Congrès s'empressa de voter un décret de déplacement. Le Nord était assez largement opposé au décret de déplacement. Le Sud y était favorable. Le décret fut voté à la Chambre des représentants par 102 voix pour et 97 contre. Il passa également de justesse au Sénat. Si le texte ne mentionnait pas l'usage de la force, il indiquait cependant qu'il fallait aider les Indiens à partir. Ce qui impliquait, en réalité, que s'ils ne partaient pas, ils seraient abandonnés sans protection, sans argent et à la merci des États. Lorsque le décret de déplacement fut voté, les tribus, les unes après les autres, firent l'objet de pressions. Les Choctaws refusaient de partir, mais 50 de leurs délégués ayant accepté de l'argent ou des terres, le traité de Dancing Rabbit Creek fut finalement signé. Les terres Choctaws, à l'est du Mississippi, furent cédées aux États-Unis, en échange d'une aide financière pour le départ, d'indemnités pour les propriétés abandonnées, de nourriture pour la première année passée sur leurs nouvelles terres et de la garantie qu'on ne leur demanderait plus jamais de s'expatrier. La pression s'accrut irrésistiblement sur les 20 000 Choctaws du Mississippi, qui, pour la plupart, détestaient ce traité. des blancs, parmi lesquels des marchands d'alcool et de nombreux escrocs, se mirent à fourmiller sur leurs terres. L'État vota en outre une loi interdisant à tout Choctaw d'essayer d'en convaincre un autre sur la question du déplacement. Fin 1831, 13 000 Choctaws commencèrent leur interminable périple vers les paysages et le climat inconnu de l'Ouest. Surveillés par les gardes, poussés par les agents, harcelés par les fournisseurs, ils étaient convoyés contre leur gré vers une destination inconnue, tel un troupeau de moutons malades. Ils cheminaient dans des chars à bœufs, à cheval, à pied, puis ils furent transportés sur l'autre rive du Mississippi. L'armée, supposée organiser leur trajet, sous-traita cette tâche à des fournisseurs privés, qui se firent payer le plus possible par le gouvernement en redistribuant le moins possible aux Indiens. Tout était parfaitement désorganisé. La nourriture disparaissait et la famine survint. Van Avery explique que les interminables et sombres colonnes de chariots grinçants tirés par les bœufs, les troupeaux poussés en avant et les foules éparses allant à pied étaient entraînées vers l'ouest à travers marais et forêts, rivières et collines, en un périple harassant qui les conduisait des plaines luxuriantes du golfe du Mexique vers les plaines arides de l'ouest. En une sorte de spasme final, l'un des derniers vestiges du monde indien originel était dispersé et ses restes expirants venaient s'entasser avec armes et bagages dans un monde nouveau, parfaitement étranger. Le premier hiver de la migration, extrêmement rude, vit de nombreux Indiens mourir de pneumonie. À l'été, une grave épidémie de choléra frappa le Mississippi et tua plusieurs milliers d'Indiens. Les 7000 Choctaws, qui n'étaient pas encore partis vers l'ouest, préférant la sujétion à la mort, décidèrent de ne pas bouger. Nombre de leurs descendants vivent encore dans l'état du Mississippi. Pour leur part, les Cherokees étaient confrontés à un ensemble de lois votées par l'état de Géorgie. Leurs terres étaient confisquées, leur gouvernement aboli et tout rassemblement interdit. Ceux d'entre eux qui déconseillaient aux autres de partir étaient emprisonnés. De plus, ils ne pouvaient pas témoigner devant les tribunaux contre des blancs et n'avaient pas le droit d'exploiter l'or récemment découvert sur leurs terres. La Géorgie vota une loi qui interdisait, sous peine de condamnation, l'installation des blancs dans les territoires indiens sans autorisation de l'État. Au printemps 1831, après que les missionnaires blancs installés dans les territoires Cherokees eurent apporté leur soutien aux Indiens qui désiraient rester, la milice géorgienne pénétra dans les territoires indiens et arrêta trois missionnaires, parmi lesquels Samuel Worcester. Ayant targué de leur qualité d'employés fédéraux, ils furent relâchés. Immédiatement, Jackson supprima l'emploi de Worcester. La milice revint l'été même pour arrêter 10 missionnaires et l'imprimeur blanc du Cherokee Phoenix. Ils furent frappés, enchaînés et contraints de faire 56 km en un seul jour pour rejoindre la prison du comté. Un jury les condamna et 9 d'entre eux furent libérés après avoir accepté de faire allégeance à la législation géorgienne. Samuel Worcester et Eleazar Butler, qui continuaient de nier toute légitimité aux lois réprimant les Cherokees, furent condamnés à 4 ans de travaux forcés. En Géorgie, on mit donc les terres Cherokees en vente et on confia à la milice la tâche de réprimer la moindre résistance de la part des populations indiennes. Celles-ci adoptèrent une politique de non-violence, bien que leurs propriétés eussent été saisies, leurs maisons brûlées, leurs écoles fermées, leurs femmes maltraitées, sans parler de l'alcool vendu au sein même de leurs églises, afin de les rendre plus vulnérables encore. En 1832, l'année où Jackson déclarait la prééminence des droits des États concernant la question Cherokee, il niait à la Caroline du Sud le droit d'annuler une tarification douanière fédérale. Sa facile réélection, cette même année, 687 000 voix contre 530 000 à son adversaire Henry Clay, laisse penser que sa politique anti-indienne était en phase avec l'opinion publique, du moins parmi les hommes blancs qui avaient le droit de vote, quelques 2 millions sur une population totale de 13 millions. Jackson pouvait désormais accélérer le rythme du déplacement des Indiens. La plupart des Choctaws et certains Cherokees étaient déjà partis. Mais il restait encore 22 000 Creeks en Alabama, 18 000 Cherokees en Géorgie et 5 000 Séminoles en Floride. de 1814 à 1824 par une série de traités signés avec les Indiens du Sud. Les Blancs s'approprièrent les trois quarts de l'Alabama et de la Floride, un tiers du Tennessee, un cinquième de la Géorgie et du Mississippi, ainsi que certaines régions du Kentucky et de la Caroline du Nord. Jackson joua un rôle majeur dans la ratification de ces traités. Selon Hugging, ses parents et amis se virent confier des postes du premier plan, officier du Bureau des Affaires indiennes, négociant, responsable de l'application des traités, contrôleur et spéculateur foncier. Il encourageait les Blancs à s'installer sur les territoires des Indiens, puis annonçait à ces derniers que le gouvernement ne pouvait pas expulser les nouveaux venus. Il valait mieux dès lors renoncer à ces terrains plutôt que risquer d'être massacré. Jackson pratiquait la corruption à grande échelle. Ces traités et ces saisies de terre jetèrent les bases de l'Empire du Coton, les plantations esclavagistes. Ce travail de Jackson permit d'étendre les installations de populations blanches jusqu'à la frontière avec la Floride espagnole. Là, elles se heurtèrent aux communautés d'Indiens séminoles que des réfugiés bâtons rouges avaient rejoints. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours.
Howard Zinn.